Bonjour, c'est Adèle d'Antony. J'ai vu le film, donc Look Up. Excellent film, plein d'autodérision, très drôle. Mais en même temps, je me dis que les climato-sceptiques, ils trouvent parfois un peu d'eau à leur moulin parce que, ma foi, on ne peut pas tout prévoir. La comète qui vient anéantir notre planète ou l'astéroïde qui nous balaye en 2 minutes. Et du coup, ils peuvent se demander à quoi bon faire tout ça puisqu'on ne maîtrise pas tout cet univers. On peut continuer comme ça. Voilà.
Bonjour, Lionel de Privas, sensible à l'écoute de votre émission. J'aimerais dire à votre invité qu'il y a aussi des inspecteurs de l'environnement, en plus des associations, qui surveillent tout ce qui se passe dans la nature. On est quelques-uns encore agents de l'État motivés à faire notre travail. Voilà, donc ça serait gentil qu'elle pense un petit peu à nous. Bonne journée.
Bonjour, Françoise, Tournu en Saône-et-Loire, pour vous dire que vous faites beaucoup confiance à la nouvelle génération pour être plus respectueuse de la nature, etc., etc. Moi, je connais pas mal d'exemples de la nouvelle génération qui n'en ont rien à faire, qui prennent l'avion, qui mangent de la viande à n'en plus finir, qui jettent, enfin, qui n'ont aucune conscience de la nature, l'urgence de sauver la nature. Mais alors, pas du tout. Et moi, qui suis beaucoup plus âgée, je fais l'effet d'une illuminée. Il faut faire confiance et solliciter toutes les générations. Il y a un peu de tout à tous les âges. OK, à bientôt.
Bonjour Camille et Mathieu, c'est Pierre de Penn-du-Tarn. Bonne année à tous les deux. Moi, j'ai beaucoup d'oiseaux qui viennent manger sur le bord de ma fenêtre. J'ai mis une mangeoire avec du tournesol. Donc, j'ai la citelle, les mésanges nonnettes, charbonnières et bleues. C'est un beau spectacle, ça n'arrête pas, c'est un vrai défilé. Si tous les gens font ça, ça serait pas mal. Voilà, ils auront un beau spectacle devant chez eux. C'est mieux que de tirer sur les oiseaux. Voilà. Eh ben, bise à tout le monde. Au revoir.
Monique de La Rochelle. Il paraît que l'avenir est de se nourrir d'insectes. Bon, j'ai vu récemment à la télévision piéger des sauterelles. Il faut les garder vivantes pour les commercialiser. On leur arrache alors les pattes et les élytres, puis seulement les fait cuire. Qui prendra la défense des sauterelles victimes d'une telle cruauté?
Voilà, si comme Monique, vous souhaitez prendre la défense des sauterelles ou nous faire entendre les oiseaux d'autres jardins ou faire entendre la voix de votre génération, eh bien le répondeur est là pour ça et on attend comme tous les jours, bien sûr, vos messages. Notez le 01 56 40 45 45. Le Covid-19 nous ferait presque oublier qu'une autre pandémie est en train de flamber depuis le mois d'août. En effet, de nombreux foyers de grippe aviaire hautement pathogènes ont été détectés dans la faune sauvage. Une trentaine de pays en Europe sont aujourd'hui touchés. La France n'est pas épargnée. Elle compte désormais 41 foyers d'influenza aviaire. Hier, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, évoquait une grande source de préoccupation. L'année dernière, à la même époque, le virus avait conduit, on s'en souvient, à l'abattage de plus de 3 millions de volailles, essentiellement des canards. Cette année, déjà 600 000 volailles au moins ont été abattues depuis le début de l'épizootie. Quelle est l'origine donc de cette épidémie de grippe aviaire? Comment explique-t-on la récurrence de ces épidémies qui reviennent maintenant chaque année en France depuis 2015 et chez nos voisins européens? Comment s'en prémunir? Dossier donc de la Terre au Carré avec nos invités en studio, Barbara Dufour et Frédéric Keck. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Barbara Dufour, vous êtes vétérinaire et professeure de maladies infectieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort. Vous êtes présidente du comité d'experts sur la grippe aviaire à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire. Frédéric Keck, vous êtes-vous anthropologue, directeur de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale du CNRS. Vous avez publié, entre autres, en 2020, Les Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine. C'est aux éditions Zone Sensible. Et puis en duplex de France Bleu Berne Bigorre à Pau, nous sommes avec vous, Sylvie Collas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveuse de volailles bio à Lectoure, c'est dans le Gers, et vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne. On va donc se retrouver tous ensemble dans un instant pour faire le point sur ces nouveaux cas de grippe aviaire en France, sur les craintes qui pèsent également sur les éleveurs de volailles. Nos invités attendent vos questions et vos témoignages dès maintenant sur la page de La Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30, on passe au vert.
Avec la suite de mes chroniques sur le film Don't Look Up, une comète pourrait-elle percuter et décimer la Terre dans 6 mois ? J'ai la réponse et ça pourrait vous étonner. Suspense.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardi avec Michel Bézikian à la technique.
Mathieu Vida, La Terre au Carré. Sur France Inter.
Les volailles françaises vont être confinées cet hiver à cause du risque de contagion par la grippe aviaire. Certains éleveurs obligés de rentrer des élevages qui vivent en plein air sont furieux. Et alors que la période faste de Noël approche, ils parlent de déclaration de guerre du gouvernement français. L'année dernière, 3,5 millions de canards avaient dû être abattus à cause du virus H5N8, perturbant sérieusement la production de foie gras.
Voilà, c'était Euronews en novembre dernier. Des dizaines d'élevages de volailles donc infectés actuellement en France par la grippe aviaire. Je vous le disais, au moins 600 000 bêtes abattues pour essayer d'enrayer cette épidémie. Et on en parle donc de ce nouvel épisode d'influenza avec nos invités. Barbara Dufour, donc vous qui êtes vétérinaire et professeure de maladies infectieuses et d'épidémiologie. On fait l'état des lieux. Quelle est la situation là en France au moment où on se parle? Je parlais de 41 foyers. C'est le chiffre qu'on retient là pour le moment?
C'est le chiffre actuel, mais il est susceptible d'évoluer extrêmement rapidement parce que malheureusement, notamment dans le sud-ouest, la situation n'est pas tout à fait sous contrôle. Elle est sous contrôle dans le nord, en Vendée on va voir, mais on a bon espoir qu'elle le soit aussi. Par contre, pour l'instant dans les Landes, les choses sont assez inquiétantes avec des foyers assez dispersés, oui, qui est une situation pas très favorable.
Donc Pyrénées-Atlantiques, Gers, Landes, Nord et Vendée. On peut faire des modélisations en matière de grippe aviaire aussi pour comprendre comment ça va évoluer.
Tout à fait. Alors on en a fait notamment grâce aux données de l'ancienne, de la dernière épisode aussi, hein, qui date de l'an dernier, comme vous le savez. Ouais. Et ça nous a permis de vérifier qu'effectivement les risques sont importants quand on a comme ça des foyers répartis dans différents endroits. Ouais. Là, on parle des élevages, hein, mais il faut savoir aussi que la faune sauvage paye un assez lourd tribut à cette maladie, et on a également récupéré pas mal de volailles mortes en France dans des zones assez différentes, notamment aussi dans le couloir rhodanien, où on n'a heureusement pas trop d'élevages, bien qu'il y ait quand même un certain nombre d'élevages dans ces zones-là, notamment des élevages de poules.
Ouais. Et comment les animaux sauvages sont touchés, justement ?
Les animaux sauvages, alors c'est un petit rappel, mais qui me paraît très important. Les animaux sauvages sont touchés, en fait ce sont surtout les jeunes de l'année. C'est-à-dire que les oiseaux sont des oiseaux migrateurs, ce sont surtout les canards qui sont porteurs de ces virus. Ces canards ont une migration qui les rassemble dans le nord de l'Europe pendant la période d'été, entre guillemets. Pendant cette période-là, ils s'accouplent. Alors ces canards qui reviennent du sud, ils sont plutôt immunisés, hein, c'est des adultes. Donc ils se rassemblent dans le nord pour s'accoupler notamment. Il y a la naissance des jeunes, les jeunes qui ne sont pas du tout immunisés. Et quand les jeunes ont commencé à grandir un petit peu, alors tous ces oiseaux, ils font des espèces de grandes conférences entre eux, si je puis dire, ils se rassemblent beaucoup. Donc ils échangent évidemment des gènes, ce qui est favorable pour la reproduction, mais ils échangent également, malheureusement, virus. La Terre étant ronde, en plus, ils viennent de zones très différentes, notamment il y en a qui viennent d'Asie. Et donc ils apportent ces virus. Les adultes les supportent assez bien, mais les jeunes, eux, les multiplient de manière très importante. Ils font leur phase d'infection juste au moment de la migration descendante, c'est-à-dire aux alentours du mois de novembre à peu près, où ils redescendent à ce moment-là pour passer l'hiver dans des zones plus clémentes. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'oiseaux qui descendent l'infection, les jeunes oiseaux. Mmh. Et ça, c'est tous les ans.
Sylvie Collas, vous qui êtes dans le Gers, vous faites donc de la volaille bio. Qu'est-ce que vous avez comme volaille d'abord exactement? Vous n'avez pas de canard, je crois, hein?
Alors non, en fait, je faisais dans le temps un peu de canard à rôtir, mais avec toutes les règles dites de biosécurité qu'on a eues depuis les premiers cas de grippe aviaire importants, en 2016 notamment, le premier grande pandémie, où il a fallu se prendre tous par la main pour mettre en place beaucoup de normes de biosécurité. Et nous, pour le coup, puisque moi je suis en élevage biologique, donc la biosécurité, c'est le le corps même de la prévention de la pratique biologique, c'est-à-dire d'abord prévenir, puisque nous, on n'a pas de moyens de traitement. Donc c'est vrai que déjà, depuis longtemps, nous pratiquions des vides sanitaires, l'autonomie sur nos élevages, c'est-à-dire d'avoir un élevage qui est en quelque sorte en vase clos, c'est-à-dire où il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Nous produisons l'aliment à la ferme, nous recevons le poussin d'un jour et il sort refroidi, puisque nous avons notre propre abattoir sur la ferme. Donc il n'y a aucun échange d'animaux vivants en cours de croissance au sein de notre élevage. Nous produisons l'aliment à la ferme, ça veut dire qu'il n'y a pas de camion d'aliments qui viennent remplir un silo à côté d'un bâtiment. Nous avons des bâtiments mobiles, nous avons des grands espaces de parcours de façon à avoir très peu d'animaux, très peu de concentration au sein même d'un bâtiment d'élevage.
Et quels animaux alors précisément, Sylvie Colas?
Sylvie Colas, quels animaux, puisqu'il n'y a pas de canard,
alors,
c'est ce que vous nous disiez.
Précisément, donc il y avait du canard, il n'y a plus de canard à rôtir, parce qu'on nous a obligés de nous spécialiser de plus en plus sur la volaille de chair, le poulet de chair, donc des poules pondeuses, des poulets de chair, des pintades, des chapons à Noël, et il y a encore peu de temps, je faisais aussi des dindes pour Noël. Donc une diversité d'espèces, avec d'autres races que ce que l'on trouve effectivement dans les élevages industriels, ce qui nous amène aussi cette réflexion sur la barrière aussi... génétique de nos élevages.
On verra justement avec vous que la diversité des espèces, c'est peut-être une des clés précisément pour se prémunir contre ces grippes à répétition. Vous n'avez pas de cas chez vous dans votre élevage, Sylvie Colas, même s'il y a des foyers dans le Gers, ça ne vous concerne pas.
Alors pour l'instant, je ne suis pas concernée. Il y a toujours la possibilité d'un risque dit extérieur, auquel cas ce serait vraiment une contamination liée à la faune sauvage, si tant est qu'elle contamine, mais par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que l'oiseau migrateur, certes, a introduit le virus de façon récurrente, mais l'an dernier encore, dans le sud-ouest, notamment, sur les près de 500 cas, 500 foyers de grippe aviaire dans le sud-ouest, deux seuls cas ont été liés directement à la faune sauvage. Tous les autres cas étaient liés à la diffusion par l'activité professionnelle d'élevage.
Et alors, vos volailles, elles sont où, vos volailles, en ce moment exactement? Puisque depuis le 5 novembre, je le disais, les éleveurs sont obligés de mettre à l'abri leurs animaux. Vous qui faites du bio, qui n'êtes pas touché par le virus, elles sont où, vos volailles?
Eh bien, mes volailles sont comme d'habitude. Nous sommes des résistants. Nous sommes dans une désobéissance engagé parce que nous n'avons jamais eu de problème, parce que nous avons cette analyse de la biosécurité.
Donc vous les laissez dehors?
On a fait un guide biosécurité il y a quelques années, qu'on a signé avec un ministre en 2016, où il y avait une dérogation pour les petits éleveurs. L'an dernier, j'ai eu ma dérogation, c'est-à-dire que j'étais en conformité. Je vois aucun élément nouveau à la situation de l'an dernier qui m'amènerait à changer ma pratique. Au contraire, d'enfermer mes volailles, je pense que je créerais un stress. Et surtout, si j'enferme mes volailles, je sais que je suis en maltraitance animale et que je suis passible aussi d'être dans une illégalité au regard de la loi sur le bien-être animal.
En tout cas, le Conseil d'État a rejeté au mois de décembre les recours de la Confédération Paysanne, donc vous êtes la porte-parole dans votre région, contre ce confinement justement imposé aux volailles, donc malgré ça, vous continuez à les laisser à l'air libre.
Malgré cela, nous faisons de la désobéissance parce qu'on ne peut pas condamner l'élevage plein air, quand on voit la responsabilité, ce qui se passe ces jours-ci, encore aujourd'hui, parce que depuis tout à l'heure, il y a deux foyers de plus déclarés dans le 64. Et je suis à Pau, donc on est dans le 64. Ouais. Donc ça veut dire que rien n'a changé, qu'on va être dans la même situation à quelques foyers près, et avec toujours autant d'animaux, parce que de toute façon, en fait, ce qui se passe actuellement, et beaucoup de petits éleveurs se sont même parfois effacés de moins produire. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, par rapport à l'an dernier surtout. J'ai quasiment réduit de moitié ma production à cause de cette contrainte de risque et de normes et d'insécurité de notre activité professionnelle. Mais en même temps, on voit bien que l'industrie continue, les camions circulent toujours. Donc moi, je suis peut-être en plein air, mais les camions, ils sont en plein air aussi.
Acte même de résistance, donc on l'a bien compris. On va parler évidemment des mesures sanitaires avec vous aussi, Barbara Delfour. Frédéric Keck, un mot quand même sur l'apparition de la grippe aviaire, parce qu'il y a les foyers asiatiques, les foyers européens. Si on remonte vraiment la chronologie de l'histoire, les premiers cas, c'était en Alsie.
Oui, le virus H5N1, donc qui est proche de celui qui circule actuellement dans les volailles françaises, est apparu dans le sud de la Chine en 96, détecté à Hong Kong en 97, et puis il s'est transmis de l'Asie vers l'Europe en 2005, et c'est à ce moment-là que les premières mesures de biosécurité sont apparues en Europe. Et c'était le moment, effectivement, où on alertait sur le risque d'une pandémie de grippe aviaire. Alors, il faut bien distinguer l'épizootie, qui est la transmission du virus chez les animaux, la zoonose, qui est la transmission du virus des animaux aux humains et parfois dans l'autre sens, et puis la pandémie qui est la possibilité que un virus qui vienne des animaux se transmette entre humains avec les réactions immunitaires imprévisibles que l'on voit par exemple sur la Covid-19.
Donc là, la grippe aviaire, c'est bien une épizootie. Donc.
Alors pour l'instant, c'est une épizootie en France.
Si, on dit épizootie.
Oui, ça n'est pas. Pour l'instant, le virus qui circule en France n'est pas zoonotique, n'est pas transmissible à l'homme.
Quelle est la souche là qui circule en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs.
Oui, alors il y en a plusieurs. Hein, ouais. Mais la souche majoritaire qui circule, c'est le H5N1. Ça n'est pas le même tout à fait que celui qui a émergé en Asie il y a de ça une vingtaine d'années maintenant. C'est un virus légèrement différent. Celui-là n'est pas zoonotique, alors que le dernier, on en a entendu parler dans les années 2006, était zoonotique. Celui-là ne l'est pas. Et puis, il y a un H5N8, très proche de celui de l'an dernier, qui circule également en ce moment, mais à moins d'importance.
Dossier grippe aviaire, donc, cet après-midi. Toutes vos questions sur le site de la Terre au Carré. Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we call to find our way, we even take the shape of something else. Survivor, Nathaniel Ratliff à l'instant.
La Terre au carré sur France Inter.
La France, c'est donc bien le premier pays de l'Union européenne à devoir faire face à la grippe aviaire dans un élevage. Pour autant, rien ne justifie la moindre psychose. L'alerte a été donnée bien avant la confirmation des analyses et dans l'Ain, un tiers du département a été placé sous haute surveillance. Benoît Bringer, Olivier Jacquelin.
La ferme de la Chapelle a retrouvé son calme. La décontamination est terminée. À l'intérieur, l'éleveur Daniel Clerc et sa famille. Il a désormais l'autorisation de sortir, mais préfère rester chez lui pour l'instant. Les habitants ont appris la nouvelle en allumant leur radio ce matin. C'est bien le H5N1 qui a touché Versailles. Jean-Louis Tournier, ancien éleveur, a confiné ses poules, mais il entre chaque jour dans sa basse-cour sans aucune crainte.
Je suis pas du tout inquiet du contact avec les poules. Absolument pas. Hein.
Voilà, c'était en février 2006, premier cas donc de grippe aviaire signalé en France sur un canard sauvage, extrait du journal de France Bleu, document INA pour parler donc de cette nouvelle épidémie là aujourd'hui en 2022 avec Barbara Dufour, vétérinaire, Frédéric Keck, anthropologue et Sylvie Collas, éleveuse de volailles en duplex de France Bleu Pau Béarn. Depuis 2015, Barbara Dufour, chaque année donc la filière eh bien donc doit traverser un épisode de grippe aviaire. Maintenant tous les ans, alors que c'était beaucoup plus espacé avant, qu'est-ce qui explique cette récurrence là aujourd'hui?
C'est compliqué d'expliquer la récurrence, c'est pas tout à fait tous les ans, heureusement d'ailleurs, mais cette multiplication quand même des foyers et des épisodes aussi, oui. Hein, elle est liée à plusieurs choses, elle est liée notamment à l'augmentation sur des sites de la concentration des élevages et des animaux.
Là, la quarantaine de foyers aujourd'hui en France, c'est quel type et quelle taille d'élevage en moyenne?
C'est un petit peu de tout, hein, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de foyers, notamment les foyers vendéens.
Oui, mais combien alors? Parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui sur les premiers, c'était des 100 000 animaux dans les élevages,
etc. Oui, c'était des gros éleveurs.
Donc, quel est le plus petit dans la quarantaine et le plus gros, pour que les gens se rendent compte quand même de la taille des élevages touchés?
Ah ben, vous avez des élevages aujourd'hui qui sont touchés, qui ont 30 000 animaux. Et puis, il y a des élevages les plus petits qui ont 500 000 animaux. Quoi, hein.
500 ou 1000 animaux.
500 à 1000 animaux. Quoi, ouais. Hein. Bon, donc voilà, il y a une grande variété. Mais il faut savoir qu'il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier phénomène, c'est l'introduction du virus dans ces élevages. Cette introduction, je crois que Mme Collas l'a rappelé tout à l'heure, elle n'est pas si fréquente que ça. Le problème, là, elle s'est passée, elle s'est passée dans le Nord, elle s'est passée en Vendée et elle s'est passée plusieurs fois déjà dans le sud-ouest à des endroits différents. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte pression dans la faune sauvage. Pour autant, une fois que ça pénètre dans un élevage, évidemment pour l'élevage c'est une catastrophe, hein, il faut immédiatement empêcher que ça diffuse. Le vrai problème c'est la diffusion. Et la diffusion, si on a eu 500 foyers l'an dernier dans le sud-ouest, alors qu'on en a eu 4 en Pays de Loire, c'est parce que les conditions d'élevage ne sont pas du tout les mêmes, non plus. Et malgré tout, faut bien dire que le plein air, d'une part, le nombre énormément de circulation, comme ça a été rappelé tout à l'heure, entre les élevages, notamment les élevages dits commerciaux, enfin les gros élevages commerciaux qui ne sont pas autarciques, beaucoup de circulation entre ces élevages, hein, de camions, de personnel.
Autarcique, c'est en circuit court, hein, c'est ce qu'on nous expliquait tout à l'heure.
Autarcique, ce sont des élevages en fait qui n'ont comme introduction que les jeunes animaux, les poussins. Hein. Sinon, et puis ils élèvent jusqu'à la transformation. Donc il y a assez peu de mouvement dans ces élevages, d'entrée et de sortie, qui sont des problèmes pour la biosécurité, comme tout le monde peut le comprendre. Alors que dans les autres élevages, ce sont des élevages très spécialisés. Ils récupèrent des animaux, ils les mettent en préparation de gavage, puis ils les gavent, puis ça ressort pour aller à l'abattage, puis c'est transformé ailleurs. Donc il y a énormément de circulation et ça augmente les risques.
Donc ça, c'est plutôt, si on doit le dire, plutôt le côté industriel.
Ça oui, mais ce qui joue également de manière très claire, et ça a été bien montré par les modèles et par l'analyse qui a pu en être faite de cet épisode-ci de l'an dernier, c'est que le plein air et la proximité et la densité des animaux et des élevages favorisent le passage naturel, sans la circulation des camions, du virus d'un côté, enfin, d'un élevage à l'autre.
Frédéric Keck, en Asie, les marchés d'animaux, par exemple, ça favorise aussi grandement la propagation de ce type de virus?
Oui, alors ça, c'est un risque de transmission qu'on ne trouve pas en Europe, effectivement, puisqu'il y a une tradition de marché au poulet vivant en Asie qui a causé donc les foyers de grippe aviaire de la fin des années 90. Et ce sont des marchés qui sont de plus en plus contrôlés en Asie. Et il faut rappeler également que il y a un usage des oiseaux sauvages dans les fermes en Chine pour renforcer l'immunité des petits élevages. Et ça aussi, c'est un facteur de propagation du virus qu'on ne trouve pas en Europe.
Alors Emma nous écrit sur franceinter.fr, une idée, réduire la taille des exploitations et arrêter d'élever des volailles clonées, ultra hybridées, leur donner de l'espace en extérieur, mais, dit-elle, on préfère tuer les petits exploitants et on garde l'industriel, c'est triste. Je vis dans les Landes et c'est dramatique. Sylvie Collas, la Confédération Paysanne pointe du doigt aussi hein, les gros élevages industriels aux dépens de petits élevages comme le vôtre par exemple.
Bien sûr, nous sentons que, en fait, maintenant, notre existence dépend de ce modèle d'élevage industriel et que nous serions condamnés, dès que nous sommes à proximité d'une forte concentration d'élevage industriel, eh bien, les petits éleveurs vont devoir s'effacer et disparaître. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que jusqu'à présent, il y avait cohabitation. On acceptait les deux modèles. Et là, actuellement, avec la réglementation en place, l'obligation d'enfermer les volailles pour les petits élevages, nos élevages disparaissent. Et pire, ils sont contaminés par ces élevages industriels autour d'eux.
On va
c'est
entendre,
ce qu'il y a eu l'an dernier.
Justement, le désarroi des petits éleveurs de volailles, comme ceux rencontrés en novembre dernier par les équipes du journal de TF1. Benjamin Norris, Éric Lafenêtre, ils sont éleveurs de canards dans les Landes.
On ne se voyait pas du tout faire du canard confiné, et on ne se voit toujours pas faire du canard confiné. Et la clientèle, voilà, la clientèle actuelle veut du canard plein air, veut du canard de qualité. Et là, on est en train de tout mettre en l'air, quoi. Si on a choisi de faire ces productions, tous les petits producteurs, c'est qu'on a l'amour de notre métier, quoi.
Même désarroi chez cet autre éleveur à quelques kilomètres de là. Il dénonce une décision qui pourrait mettre en péril bon nombre de petites exploitations.
On sort en risque élevé parce qu'il y a des cas à 1000 km d'ici, mais qu'est-ce que c'est ça? Nous, on est au fond du trou, là, depuis ce matin. Nous, on fait 80% du chiffre là, jusqu'à Noël, sachant qu'on n'a pas travaillé de janvier à juin. Mon fils et moi, on est à notre compte, ma femme est salariée. Ça veut dire que quand même, personne ne s'en est occupé, mais de janvier à septembre, on n'a pas eu un centime. Pas une rentrée d'argent.
Voilà, si Nicolas, une réaction sur ce désarroi donc de vos confrères, des grosses difficultés aussi que ça peut entraîner?
Mais bien sûr que c'est des difficultés au quotidien, surtout qu'on est tous en vente directe. C'est-à-dire que l'absence sur un marché, c'est aussi perdre la clientèle. Et aussi, sur ces marchés, on a une exigence en qualité. On est vraiment sur la haute couture de l'élevage, sur le très haut de gamme. Donc pour nous, changer de modèle de production, c'est changer forcément de qualité de production. Donc c'est pas la même clientèle. Et nous, on est obligé de rester honnête. On a créé des clientèles, on a des gens qui nous sont fidèles. Encore ce matin, j'étais au marché à Pau. Voilà, les gens étaient satisfaits des volailles de Noël. Ils reviennent début janvier, ils sont là, ils sont présents, ils nous encouragent. Et on se dit que c'est nous qui travaillons bien et qu'on voit pas pourquoi nous, on disparaîtrait.
Et donc on précise, Barbara Dufour, que hormis les éleveurs comme Sylvie Colas qui font, dit-elle, de la résistance, aujourd'hui et depuis le mois de novembre et certainement jusqu'au début de l'année, jusqu'au mois de mars-avril, ouais. En fait, tout ce qu'on achète, soi-disant plein air, que ce soit des œufs, des volailles plein air, ne sont pas plein air.
Oui, actuellement, c'est le cas. Pour se protéger, les animaux doivent être entre eux. Parenthèse, mis à l'abri. Je crois qu'il faut quand même faire une différence.
Non, mais c'est important pour les consommateurs, excusez-moi, mais oui, c'est un point très important.
C'est
sur
un
les
point
étiquettes
très
partout,
important.
Il y a écrit plein air. Vous nous confirmez aujourd'hui qu'il y a zéro œuf.
Une fois de plus, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les systèmes de production, qui sont des systèmes plein air ou pas plein air, avec une mise à l'abri provisoire des animaux pendant un certain
mais
temps.
Ce sont des animaux qui ne vont pas dehors.
Ce sont des animaux qui, pendant plusieurs semaines et mois, ne peuvent pas aller dehors. Et ça passe avec ça. Évidemment, quand on a des animaux dehors et qu'on les rentre, on a des problèmes. Au moment où on les rentre. Parce que les animaux, les oiseaux en particulier, sont assez agressifs entre eux. Il leur faut un grand espace. Et souvent, les gens qui font du plein air, et entre parenthèses, les élevages industriels dont on a parlé il y a un instant, ils font du plein air aussi. Hein. Il y a énormément d'éleveurs. Tous les prés à gaver sont dehors. Sauf qu'ils ont la possibilité, pour certains d'entre eux, pour d'autres, ça a été très compliqué également, de les mettre à l'abri au moment du passage des oiseaux migrateurs. Et au moment du risque d'épisodes aussi. Et notamment quand il y a un foyer quelque part, les élevages autour, s'ils sont pas en plein air, le risque de transmission, s'ils sont en plein air, pardon, le risque de transmission, il est très élevé. Quand
Frédéric, on peut quand même rassurer les consommateurs sur la consommation de la viande. Il n'y a pas de risque si la viande est cuite, par exemple, hein.
Oui, tout à fait. Ni le foie gras, ni la viande de volaille ne sont dangereuses. C'est vraiment le contact avec l'oiseau vivant. C'est pour ça que les règles de biosécurité, elles visent à protéger donc les fermes de l'introduction du virus par des fermiers ou des oiseaux sauvages, mais elles visent aussi à protéger les fermiers du risque de transmission par un virus zoonotique.
Ah, on y reviendra évidemment tout à l'heure, Sylvie Colas. Je sens que vous avez envie de réagir. On parlera de la question du confinement, bien sûr, avec les réactions et les questions des auditeurs de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au carré.
Et encore une catastrophe qui nous arrive du ciel, Camille Passauvert.
Merci pour moi. Chose promise, chose due. Après vous avoir fait entendre hier l'avis des climatologues sur le film phénomène de ce début d'année Don't Look Up sur Netflix, qui fait largement écho à la réaction de la société, hein, les gens, les politiques, les patrons, les médias face à l'urgence climatique. Je vous parle donc aujourd'hui d'une autre question qu'on peut se poser. Le scénario du film, à savoir une comète géante qui fonce droit sur la Terre, découverte 6 mois et 14 jours avant son impact certain, anéantissant toute forme de vie. Le scénario est-il réaliste? J'ai demandé à l'un des spécialistes dans le domaine, l'astrophysicien Patrick Michel de l'Observatoire de la Côte d'Azur.
Il n'y a rien à l'horizon d'identifier et il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'instant étant donné les faibles fréquences d'impact.
Mais Mais quand je lui ai d'abord demandé par SMS s'il avait vu le film, il m'a répondu oui, qu'il en avait même parlé avec Amy Mainzer, la conseillère scientifique du film, une amie, parce que là, je le cite, « le scénario est malheureusement crédible, même si nous travaillons dur pour que ce ne soit pas le cas ». Ce n'est donc pas totalement de la science-fiction.
C'est vraiment le scénario le moins probable. Mais effectivement, on a un réservoir de comètes à 50 000 fois la distance Terre-Soleil à peu près, qu'on appelle le réservoir d'Oort. Et de temps en temps, il est secoué et il y a un petit objet glacé qui rentre dans le système solaire. Et très souvent, on le découvre lorsqu'il arrive vers Jupiter. Et à partir de là, en prenant en compte toutes les perturbations, on peut avoir une meilleure prédiction de sa trajectoire et savoir s'il rentre en collision avec la Terre. Et l'échelle de temps, effectivement, dans ce cas-là, ça va être une année. Mais c'est tellement peu probable qu'il y a un moment donné où il faut accepter un niveau de risque quand il est complètement déraisonnable de l'envisager par rapport à plein d'autres risques.
Donc regardez plutôt avant de traverser la route que de regarder en l'air. Cela dit, les astrophysiciens anticipent quand même, et cela depuis quelques années, quand ils se sont rendus compte qu'aussi faible soit le risque, il n'existait rien pour y faire face.
On a été confronté une fois à cette situation. En 2004, lorsque l'on a découvert l'astéroïde que l'on a nommé ensuite Apophis, et pour lequel on avait des premières estimations de probabilité qui étaient relativement grandes pour un impact avec la Terre en 2029. Et on s'est posé la question à ce moment-là, mais qui on contacte ?
Eh oui, parce qu'à l'époque, il n'existait pas de bureau de coordination de la défense planétaire, cité dans le film et créé en 2016. Rien non plus du côté du comité d'utilisation pacifique de l'espace à l'ONU, ça existe aussi en vrai, oui, où désormais deux groupes, dont fait partie Patrick Michel, travaillent sur la question.
Il y a d'abord prédire la menace, c'est-à-dire faire l'inventaire de tous les objets potentiellement menaçants. Alors on l'a fait pour les objets plus grands que 1 km de diamètre, on cherche à le faire maintenant pour les objets plus grands que 140 mètres, qui est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région ou d'un petit pays. Et ça, on va pouvoir le faire depuis l'espace, avec un télescope spatial que la NASA devrait envoyer dans quelques années, et en 10 ans, on va pouvoir faire l'inventaire et donc avoir une meilleure possibilité, une plus grande possibilité de prédire éventuellement un impact, voire même dire qu'il n'y a aucun risque, et ça sera probablement le cas pour le prochain siècle. Et en parallèle, on va tester une méthode de déviation avec les missions DART de la NASA et ERA de l'Agence spatiale européenne, qui vont, DART a été lancé le 24 novembre dernier, et qui vont faire le premier test de déviation en utilisant un projectile artificiel, en fait le satellite lui-même, qui va taper dans un astéroïde pour voir si on arrive à le dévier.
Et ça, on le saura fin septembre. Rien à voir là avec ce qui est d'abord prévu dans le film.
Des navettes spatiales déclassées et des satellites chargés d'ogives nucléaires dont le but sera de faire exploser la comète Dibiaski afin de la dévier de sa course. Mais il va nous falloir un héros.
Mais pas de héros pilotant une navette spatiale en chantant et en réclamant du whisky dans la vraie vie, non. Pas non plus de sauveurs patrons de la tech tout puissants. Ils ne sont que des outils.
Le fait que des entrepreneurs privés se donnent le droit ou qu'on les utilise pour faire le job, c'est pas l'idée pour l'instant. Par contre, on les utilise quand même. Par exemple, la mission DART, qui va donc faire le premier test de déviation, eh bien, a été lancé par une fusée de SpaceX.
Ah, donc ils sont quand même dans le game, comme on dit. En tout cas, les choses s'organisent, les générations futures auront un plan. Une précision sur l'astéroïde Apophis dont parlait Patrick Michel, les trajectoires ont été revues et il n'y a aucun risque qu'il entre en collision avec la Terre.
Enfin, une bonne nouvelle.
Voilà, donc sauf très surprenante comète, on est tranquille pour au moins un siècle, a priori. D'autant que notre planète, vous le savez, c'est pas vraiment de l'extérieur qu'on la menace aujourd'hui le plus, mais bien de l'intérieur, nous, et là, il y aura ni satellite ni super-héros pour rattraper les dégâts.
Ah si, quand même, on a des super-héros, on espère. Camille Passauvert, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Frédérica, qu'est-ce que vous avez vu ce film, donc Look Up, dont les scientifiques parlent beaucoup ces derniers jours?
Oui, tout à fait, c'est un excellent film sur les lanceurs d'alerte. Alors, il est aussi peu probable qu'on ait une météorite qui cause l'extinction de l'espèce humaine qu'un poulet qui cause une pandémie. Mais dans les deux cas, c'est des scénarios auxquels on se prépare parce que ça correspond à des causalités profondes.
Et typiquement, la pandémie qu'on vit actuellement, c'était dans des scénarios, je crois même, de la CIA, me semble-t-il, il y a des années. Et en fait, on n'y était pas préparé, pour le coup.
Et c'était des scénarios qui avaient été préparés pour la grippe et qui se sont appliqués au SRAS en 2003, puisque c'est aussi du sud de la Chine que est émergé ce nouveau virus zoonotique.
Donc quand même, les épidémies servent à d'autres pour
C'est ça, on apprend d'une crise sur l'autre. Ah. Oui.
Allez, on verra dans un instant comment se protéger, comment surtout protéger les oiseaux face à la grippe aviaire. Dossier de la Terre au carré. Oh mon Masque d'or, extrait de son nouvel album, c'était Fishback.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Le micro jaune, si vous voulez bien.
Le téléphone.
Oui, déjà beaucoup d'appels hein, sur le canard. Et... Arthur Martin, bonsoir. Vous travaillez pour l'OFE. Pouvez-vous déjà nous dire ce qu'est l'OFE ?
L'Office français des épizooties, c'est-à-dire l'organisme qui surveille le développement des épidémies chez les animaux.
Bon alors, depuis la découverte de ce canard mort dans une mare du petit village de Noyalo-sur-Creuse...
Un colvert, il s'agit d'être précis.
Un colvert, absolument. Doit-on ou pas redouter une épidémie de grippe aviaire ?
Non, c'est un sujet complexe, comme vous le savez. Il s'agit de ne pas minimiser les risques tout en évitant d'affoler inutilement les populations. Et pour ça, il suffit d'appliquer à la lettre le principe de précaution.
Bien, nous allons prendre un premier appel.
Voilà, c'était Le Nom des gens, parce que c'était un film, même si vous avez reconnu la voix d'Alain Bédoué, film de Michel Leclerc en 2010 avec Jacques Gamblin. Vous l'aviez vu, Frédéric Heck, à l'époque ?
Oui, tout à fait. Et ça commence à France Inter avec Sarah Forestier qui interpelle Jacques Gamblin en lui disant « Arrêtez d'emmerder les gens avec la grippe aviaire ».
Eh ben voilà, c'est le mot du jour, effectivement. On parle de la grippe aviaire avec vous, Barbara Dufour, vétérinaire, et Sylvie Collas, éleveuse en duplex de France Bleu Bernard Pau. Sylvie Collas, est-ce que vos acheteurs, ceux que vous croisez sur le marché de Pau, par exemple, comme ce matin, vous posent beaucoup de questions sur les risques à consommer la viande en ce moment avec la grippe aviaire ?
Absolument pas. Hein. C'est pas l'ombre de leurs inquiétudes. Ils savent très bien que si on a le droit de commercialiser nos produits, c'est bien parce qu'ils sont sans aucune conséquence pour leur alimentation. Mm-hmm. Au contraire, eux, ils sont là sur le débat. Pour vous, que vous puissiez continuer. Merci pour ce que vous faites pour nous. Mm-hmm. On a besoin de vous. Voilà, c'est que des encouragements pour nous.
Barbara Dufour, on rappelle, hein, vraiment, vous souhaitez à nouveau le dire, il n'y a pas de risque à consommer la viande. Hein.
Non, aucun risque à consommer la viande actuellement. Premièrement, le virus n'est pas transmissible à l'homme, celui qui circule actuellement. Et deuxièmement, si même il l'était, les mesures qu'on a de détection et de blocage, entre guillemets, des élevages, d'abattage et aussi des animaux, de retrait des denrées, fait qu'il n'y a aucune probabilité qu'un poulet ou qu'un canard ayant du virus sur sa surface puisse arriver dans un supermarché.
Alors, vous parlez d'abattage. Une question, parce qu'effectivement, là, il y a la grippe aviaire, il y a l'épizootie. On abat tout le monde. Il y a des questions. Isabelle, par exemple, nous dit, on entend parler d'abattage massif de volailles. J'aimerais savoir comment on procède pour tuer autant d'animaux. Est-ce qu'on fait des cadavres ? Et François, il pose la question de la vaccination, parce qu'il y a aussi une question de dimension de bien-être animal. Imaginons qu'on fasse ça à des humains, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce qu'on se permet de le faire sur des canards ?
D'abord, les canards et les gens, c'est pas pareil. Même s'il y a des tas de gens qui commencent à considérer que tous les animaux sont comme les hommes, on est encore dans une société qui privilégie l'espèce humaine. Donc, on n'applique pas les mêmes méthodes. Les canards, ils sont élevés pour être consommés. Hein. Alors, il y a deux types d'abattage. Hein. Faut être bien conscient de ça. Il y a des abattages qui se font, ce qu'on appelle des abattages euthanasie. Alors, ça se passe sur place, dans les élevages. On fait boire un produit anesthésiant aux animaux. Ça les endort et puis on termine de les asphyxier, si je puis dire, dans des caissons, une fois qu'ils sont endormis, dans des caissons à CO2. Il y a des entreprises spécialisées qui font ça, hein, et auxquelles l'État a recours pour abattre ces animaux. Et puis après, ils partent à l'écarissage, où ils sont
Écaries, enfin comme les autres animaux de compagnie ou de production qui meurent dans les élevages. Donc ça c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément, des canards qui sont dépeuplés de manière un peu préventive pour éviter que le virus diffuse, comme ça a été le cas l'an dernier au moment de l'épisode aussi, on a essayé de dépeupler assez largement pour éviter que le virus saute d'un élevage à un autre de manière rapide. Un certain nombre de ces élevages sont partis dans des systèmes d'abattage normaux, si je puis dire. Ils sont partis dans des abattoirs où, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous, parce que ça dépend un petit peu de ce que recherche aussi le consommateur, certains ont été commercialisés et transformés en produits de canard à rôtir.
Frédéric, on parle toujours d'abattage préventif.
Oui, alors, l'abattage devient de plus en plus fréquent, donc ça devient maintenant une mesure de contrôle et pas seulement pour éviter la propagation du virus. Mais je voulais signaler que l'abattage, il a un coût financier, il a un coût moral et psychologique pour les éleveurs, et puis il a aussi un coût en termes de biodiversité, parce que il y a un risque quand on abat un élevage de perdre une espèce qui était bien adaptée à un terroir. Et c'est un des enjeux de la mobilisation, notamment dans le Sud-Ouest, que les producteurs ne soient pas abattus dans ces cas-là.
Sylvie Collas, vous souhaitez réagir bien sûr sur ce point ?
Oui, voilà, parce que effectivement, tous ces abattages préventifs, là aussi, on voit la difficulté, vu les volumes et l'importance des élevages, de pouvoir faire ça dans des délais très courts, parce que l'efficacité, c'est effectivement d'éteindre le foyer le plus rapidement possible. Or, quand vous avez, comme le premier foyer qu'on a eu dans le 59, dans le Nord, 160 000 pondeuses, il a fallu près d'une semaine pour assumer la sortie de tous ces animaux. Donc, vous voyez là aussi la modélisation de production. Engendre aussi une modélisation de dépeuplement, d'incinération de volume qui fait qu'à un moment c'est un château de cartes, c'est très très compliqué voire impossible quasiment à gérer, et là aujourd'hui on est en train de mettre en place une plateforme d'abattage spécifique avec GT Logistique, donc une grosse unité pour abattre tout le dépeuplement des Landes. Donc ça fait peur, on se croirait en guerre en fait.
Donc il y a à la situation. Fois l'abattage effectivement, très impressionnant, très marquant aussi, traumatisant même pour les éleveurs, et puis le confinement. Donc ça, ce sont toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui. Elles sont toutes justifiées, selon vous, Barbara Dufour, qui est vétérinaire, je le rappelle.
Le problème est qu'on est dans une situation extrêmement explosive dans ces zones-là, dans la mesure où il y a, je le rappelle, et je l'ai dit, et j'assume ces paroles-là, trop d'élevages, trop concentrés, et trop d'animaux dans ces élevages au même moment. Et donc, dans cette situation, on a recours à des mesures qui sont, entre guillemets, extrêmes, pour pouvoir essayer d'éteindre l'épisode aussi, de faire en sorte qu'il y a eu près de 500 foyers l'an dernier, mais il y a des milliers d'élevages dans la zone quand même. Donc des milliers et des milliers. Donc on en a, grâce à ça, préservé d'autres. Donc c'est terrible, mais il y a trop d'élevages et trop d'animaux. Donc actuellement, on n'a pas grand-chose à faire contre. On a quelques mesures. Première mesure, effectivement, essayer d'éviter que le virus ne rentre, c'est-à-dire avoir des mesures de biosécurité et notamment la mise à l'abri pour éviter que des oiseaux sauvages ne viennent contaminer des zones, différentes zones. On voit que c'est pas toujours facile et que même dans des élevages confinés, il y a des fautes de biosécurité qui font que le virus arrive à rentrer dans les exploitations parce que les éleveurs rentrent, sortent, viennent chercher de la paille, etc. Enfin, c'est compliqué. Et la deuxième mesure qu'on a, c'est également quand c'est rentré, d'éviter que ça diffuse. Et pour éviter que ça diffuse, on n'a pas 36 méthodes. Il faut malheureusement faire place, utiliser des méthodes de dépeuplement des animaux. Je rappelle que ces animaux sont élevés pour la boucherie, donc c'est une catastrophe de les détruire et de ne pas les consommer. Heureusement, on
donc
peut
de les
en
abattre,
consommer.
Hein, parce que vous tournez un peu autour du pot,
oui,
mais on parle bien d'abattage.
Les abattre. Alors, quand on parle d'abattage, moi j'ai tendance à parler d'euthanasie pour ceux qu'on ne consomme pas et d'abattage pour ceux qu'on va consommer, de manière à bien séparer les deux choses.
Anthony nous envoie ce témoignage toujours sur franceinter.fr. Éleveur de pondeuses bio dans le Sud-Est, je me retrouve à avoir perdu 15% de mon cheptel à cause du confinement. J'ai une production diversifiée, donc je ne mets pas en risque mon exploitation, mais je ne fais pas ce métier pour ramasser des cadavres. Je crois que les Français comprennent mieux maintenant l'impact d'un confinement sur une population. L'an dernier, Frédéric Heck, il y avait des dérogations pour les élevages de moins de 3200 animaux, me semble-t-il. Pourquoi aujourd'hui, vous comprenez, vous, qu'il y ait confinement total, quelle que soit la taille de l'élevage, que ce soit 100, 200, 500 ou 150 000 animaux ?
On a vu que le confinement était une mesure qui était adopté en urgence, hein, aussi bien pour les animaux que pour les humains. D'ailleurs, le terme a été d'abord adopté par les animaux avant de nous concerner nous-mêmes. Donc, c'est pour ça aussi que les abattages nous concernent, parce que la frontière entre les hommes et les animaux devient de plus en plus s'estompe. Le fait même de les manger montre qu'on partage quelque chose avec eux. Mais effectivement, donc l'abattage et le confinement posent des problèmes d'identification. Il y a une troisième mesure qu'on n'adopte pas en France, c'est la vaccination. Parce que les consommateurs veulent pas manger de la viande vaccinée, alors que par exemple en Chine ou au Vietnam, la vaccination de masse est adoptée, mais elle est considérée comme favorisante des
certaines. Il existe un vaccin contre la grippe aviaire.
Oui, tout à fait. Les vétérinaires chinois notamment sont spécialisés.
Sylvie Collas, là-dessus, quand on fait du bio, justement, la question de pouvoir soigner les animaux, ça pose un vrai problème pour vos consommateurs et des vaccinés.
La vaccination est déjà pratiquée en élevage de volailles. Il y a dès les couvoirs, l'ensemble des poussins, que vous soyez, on n'a pas de poussins bio, hein, si je puis dire, hein, on achète un jour.
Donc il y a vaccination
mais c'est
déjà.
Souvent la race qui est différente. Et donc ils sont déjà vaccinés dans les couvoirs parce qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont obligatoirement éradiquées et donc pour lesquelles tout est vacciné. Donc je ne sais pas qui a inventé que les consommateurs étaient contre une viande vaccinée parce que ce soit en bovin, en porcin, en vin, il y a des vaccinations obligatoires pour la fièvre aphteuse, la brucellose,
etc. Mais peut-être que beaucoup de consommateurs vont découvrir que même la volaille bio est vaccinée.
Mais non, mais ils le savent déjà. De toute façon, ils préfèrent savoir que la volaille bio elle est en plein air que de la volaille bio confinée. Le béaba du bio, c'est d'abord le plein air. Et la vaccination, les individus eux-mêmes sont vaccinés. On sait très bien que si c'est une solution pour éradiquer une maladie, et même nous, en bio, en tant qu'éleveurs, s'il faut admettre que nous aurons le droit au plein air moyennant que nos volailles soient vaccinées, on est tout à fait d'accord. Le seul problème, c'est qu'actuellement, la question de la vaccination, c'est aussi la question du statut indemne de la France au regard de la grippe aviaire et que des animaux dits positifs liés à la vaccination ne pourront fermer les frontières d'un certain nombre de débouchés agroalimentaires de l'industrie de la volaille. Et là, on revient sur aussi des considérations économiques. Je suis désolée, il y a bien ces considérations et j'apprécie ce qui a été dit tout à l'heure. On est bien d'accord sur la concentration, sur le risque de la faune sauvage, sur la densité des élevages. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit demain ? Pour quelle alimentation ? Sur nos territoires ? Comment, justement, on voit un plan à long terme. On est tout le temps en train de créer des gestions conjoncturelles de situations, alors que c'est vraiment structurel, structurellement.
Il faut penser ça à long terme. Barbara Dufour, vous souhaitez réagir avant
Un mot sur la vaccination, parce que ça apparaît toujours, on le voit bien en Covid, c'est une situation importante, mais pas miracle. Et en grippe, c'est encore moins vrai. Alors pourquoi ? On a parlé tout à l'heure des souches qui circulaient. On a rappelé que c'était du H5N1 en ce moment, et un peu de H5N8. Et on vaccine pour du H5N2. Parce qu'on vaccine actuellement des animaux dans les zoos, pour les protéger. Pour les oiseaux, des oiseaux dans les zoos. Donc, c'est très compliqué. On connaît les virus qui circulent à peu près 3 semaines, à 4 semaines
donc
avant.
On n'a pas le temps de faire un vaccin.
Voilà, on n'a pas vraiment le temps de faire un vaccin parfaitement adapté.
Et juste un mot par rapport aux dérogations. Quelle différence entre cette année et l'an dernier ? Pourquoi il y avait des dérogations jusqu'à l'année dernière pour les plus petits élevages, donc moins de 3200 animaux, et pas cette année.
L'an dernier, il n'y a pas eu que des dérogations pour les plus petits élevages. Il a été dérogé 3200 animaux dehors. Donc il y avait des élevages qui avaient 15 000 oiseaux, qui en ont mis 3200 dehors et qui ont gardé les autres en bâtiment.
Pourquoi il n'y a pas de dérogation?
Alors pourquoi il n'y a pas de dérogation? Parce qu'on a eu une catastrophe l'an dernier. On a eu 500 foyers en l'espace de 3 mois dans le sud-ouest. Et les modèles ont tous bien montré qu'une des raisons à ça, c'était le plein air. Quand vous avez un élevage de plein air qui crache du virus et qui est à moins de 3 mètres d'un autre élevage qui a des oiseaux en plein air, il n'y a pas besoin de camion, il n'y a rien besoin du tout pour que ça passe de l'un à l'autre. Il suffit que des canards tous à un moment donné.
Allez, d'autres questions pour terminer dans un instant avec les auditeurs de la Terre au Carré pour évoquer la grippe aviaire et voir comment justement on peut penser autrement les élevages dans les années qui viennent. Ce sera juste après Dire Straits.
Et les canards qui toussent.
Oui. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. Coming in out of the rain.
fortune in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Sultans of Swing, ça fait du bien d'ailleurs, Straight sur France Inter dans la Terre au Carré. Allez, encore quelques questions pour nos invités pour parler grippe aviaire. Sylvie Collas, vous qui êtes éleveuse, donc on le disait dans le Gers, c'est quoi pour vous finalement l'élevage idéal des années à venir pour justement se parer contre ces épisodes de grippe?
Mais pour moi, c'est l'élevage qui va être le plus résilient possible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un impact justement de diffusion autour de lui. C'est d'où la pratique que l'on a, nous, d'être en autarcie. Donc de, si, quand bien même on serait par hasard contaminé par un éventuel oiseau sauvage, eh bien nous ne diffuserons pas. Donc à partir de là, ce serait facile de gérer le foyer. Et en plus, ça aurait peu de conséquences, puisqu'à l'instant T, je vais avoir 1500 volailles. Donc vous pensez bien que au niveau logistique d'abattage, ça n'aurait aucune conséquence. Et même au niveau économique, puisqu'actuellement, c'est le contribuable qui paye l'euthanasie de tous ces animaux et toute la destruction et les indemnités auprès des éleveurs. Donc c'est pas rien. Donc il faut mieux avoir beaucoup de petits élevages bien répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont résilients par rapport aux conditions environnementales aussi.
Parce qu'on voit bien les poches en ce moment, hein, sur le sud-ouest en particulier. Donc Frédéric Hex, ça c'est une des leçons à retenir. Il faut vraiment un plus grand maillage sur le territoire, des élevages plus petits. Et pour la biosécurité, qu'est-ce qui va avec alors ?
La biosécurité, c'est pas seulement des mesures imposées d'en haut. On a parlé du confinement, de l'abattage, aussi de la vaccination. C'est pour les éleveurs prendre les mesures adaptées à la taille de leur élevage, éventuellement sélectionner des espèces qui peuvent vivre un peu en plein air, un peu claustrées, et effectivement répartir les élevages sur le territoire.
Ouais. Et plusieurs espèces, si on peut le faire, Barbara Dufour, c'est alors, mieux aussi pour lutter contre un virus ?
Alors plusieurs espèces, mais pas plusieurs espèces d'oiseaux, parce qu'ils sont tous sensibles à la grippe aviaire. Par contre, polyélevage, polyculture, c'est vrai que quand on peut le faire, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à la fois pour le territoire et puis à la fois aussi pour son élevage, son propre élevage. Moi, je partage les propos qui ont été tenus par Sylvie Collas, hein, à savoir qu'il y a trop d'élevage concentré avec trop d'animaux et trop de mouvements au même endroit. Donc, il faudrait moins d'élevage, moins d'animaux dans les élevages, et puis sans doute des pratiques de biosécurité et des pratiques un peu plus avec un peu moins de circulation aussi.
Mais pardon, en vous écoutant, vous dites rien aussi sur l'industrialisation aussi, et donc la taille des élevages qui va en augmentant. J'imagine qu'il y a aussi un
c'est
point
ce que
là-dessus
je dis, trop
important.
D'animaux dans les élevages, c'est-à-dire qu'on a des trop gros élevages.
Donc en gros quoi, plus d'industrie.
C'est pas ce que je dis. Moi je porte pas de jugement de valeur et je suis pas là pour ça, pour porter un jugement de valeur entre les autarciques et les industriels. Pour autant, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de très gros élevages rassemblés dans des territoires trop proches les uns des autres. Donc il faut diminuer à la fois le nombre d'élevages et la taille des élevages.
Allez, le mot de la fin pour l'éleveuse quand même, Sylvie Collas. Est-ce que les normes européennes permettent encore justement à des éleveurs aujourd'hui d'avoir des petites productions ? Ou est-ce que ça va complètement à l'encontre justement de ce qu'il faudrait faire ?
C'est bien là la difficulté. C'est effectivement, plus il y a de normes, de contraintes, et moins les petits éleveurs s'y retrouvent, puisque même pour faire certaines analyses, quelle que soit l'importance du lot, le nombre d'analyses est le même à pratiquer. Donc notamment, je pense à la salmonelle en volaille plein air, en pondeuse, c'est une catastrophe. On a même plus, on a beaucoup de situations liées au plein air, de situations de salmonelle dramatiques. On a l'abattage aussi des troupeaux de pondeuses sur des petits élevages. Donc c'est une catastrophe et on voit disparaître notre monde paysan. Et n'oubliez pas, 100 000 paysans au moins ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Moi, je prends des paysans nombreux et heureux.
Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Frédéric Heck, un livre va sortir sur la grippe aviaire pour les plus jeunes. Ce sera dans quelques jours, le 20 janvier.
C'est un livre sur la psittacose, qui était un peu le précurseur de la grippe aviaire. Ça se transmettait par les perruches. Et c'est Louis Pasteur qui va dans le château de Rosa Bonheur, une peintre dont on célèbre le bicentenaire, et qui va enquêter sur la transmission d'un virus venu des animaux.
Ça sort le 20 janvier.
Le 20 janvier au Sabot Rouge.
Merci beaucoup.